Vous êtes avec SBS French.
Actualité sportive de ce jeudi, une actualité dominée par le football avec la clôture de la saison des transferts et la suite des rebondissements de la Coupe d'Afrique des Nations. On parlera également des JO d'hiver dont les compétitions sont déjà en cours. Mais tout d'abord, grosse surprise, Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football, a brisé son silence en affirmant qu'il était temps pour la Russie de retourner sur le terrain. Explication avec nos confrères de RFI.
J'ai toujours été contre les suspensions, les boycotts, et d'ailleurs cette suspension n'a rien apporté. Elle n'a fait que créer davantage de frustration et de haine.
Depuis février 2022, la Russie et ses clubs ne participent donc pas aux compétitions gérées par la FIFA, mais le CIO a lui autorisé certains athlètes du pays à concourir sous bannière neutre lors des JO de Paris en 2024, et d'autres fédérations sportives comme le judo ou le taekwondo ont depuis choisi de lever ces sanctions. Pour Gianni Infantino, le foot doit suivre le mouvement.
Avant ça, je n'avais jamais entendu parler de boycott, que les raisons soient commerciales, politiques ou diplomatiques. Alors pourquoi le football? Nous devons nous unir, rassembler les gens, et ces gens veulent assister à la Coupe du Monde. Ils veulent simplement venir se divertir et passer du temps ensemble.
Des déclarations qui semblent déconnectées de la situation en Ukraine, mais saluées par le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov. La Fédération russe s'est dit, elle, soutenir pleinement la position d'Infantino. De son côté, Kiev a dénoncé des propos irresponsables, voire infantiles.
Et toujours au football, mais côté australien, cette fois-ci sur le terrain, hier, deux rencontres avaient lieu, comptant pour la 15e journée du championnat australien femmes. Western Sydney a créé la surprise en battant Melbourne City, leader de la A-League Women, 1-0, signant ainsi sa troisième victoire consécutive. City, qui enchaîne deux défaites pour la première fois depuis janvier 2024, ne compte plus qu'un point d'avance en tête du classement après 13 journées. Ce résultat permet à Western Sydney de quitter la dernière place et de se rapprocher à 4 points du top 6. L'équipe reste 10e après la victoire de Brisbane face à Sydney FC, 3-1 à Leichhardt Oval hier soir. Et demain commenceront des matchs de la 16e semaine de la A-League Women. Wellington Phoenix reçoit Perth Glory, Melbourne Victory jouera à domicile contre les Newcastle Jets. D'autres rencontres auront lieu dimanche prochain, donc Melbourne City qui recevra Brisbane Roar et Sydney FC qui reçoivent Canberra United et les Western Sydney Wanderers qui reçoivent Adelaide United. Côté homme, se joue cette semaine des matchs comptant pour la 16e journée. Demain, Wellington Phoenix reçoivent Melbourne Victory, donc c'est le seul match au tableau demain soir. Samedi, par contre, il y a plusieurs rencontres. On signale MacArthur qui reçoit Perth Glory, Auckland FC qui reçoit Sydney FC et Western Sydney Wanderers qui reçoivent Melbourne City, le Brisbane Roar qui reçoivent les Central Coast Mariners. Et dimanche, une seule rencontre au tableau, Adelaide United qui reçoivent Newcastle Jets. Sur le continent africain, à 6 semaines du coup d'envoi de la CAN féminine au Maroc, un championnat crucial pour les qualifications de la Coupe du Monde féminine, bien l'équipe nationale sénégalaise est toujours dans l'incertitude. Ainsi, les Lions de la Teranga ne savent toujours pas qui les dirigera pour succéder à Mamoussa Cissé. Explication, Babacar Fall, RFI.
Nous avons presque fini d'examiner les différentes candidatures et d'ici le week-end prochain, au plus tard, on saura qui va conduire les Lions à la prochaine CAN. C'est ce que nous confie au téléphone le secrétariat général de la Fédération sénégalaise de football. C'est en fin novembre dernier, un mois après la qualification des Lions à cette CAN, que la FSF avait remis en jeu, contre toute attente, le fauteuil de Mamoussa Cissé, sélectionneur de l'équipe jusqu'ici. Pourquoi changer après une qualification héroïque face aux Ivoiriennes? Les dirigeants ne semblent pas convaincus par le jeu des Lions, surtout le manque d'efficacité de l'équipe. Mais Mais Moussa Cissé ne lâche pas l'affaire. Il a bel et bien déposé son dossier à la fédération lorsque celle-ci a lancé son appel à candidature. Et il n'est pas le seul. Le nom de Mbaye Ntiam circule aussi. La coach de 42 ans, actuelle sélectionneuse des U20 filles du Sénégal, elle est par ailleurs entraîneuse du club de Bombay, le club d'Abdoulaye Fall, le président de la Fédération sénégalaise de foot.
Toujours sur le continent africain, un peu plus de deux semaines après la finale controversée de la Coupe d'Afrique des Nations, hier, la CAF, la Confédération africaine de football, a rendu son verdict disciplinaire contre le Sénégal et le Maroc. Explication, Victor Messistrano, RFI.
La CAF a prononcé des sanctions à la suite des incidents qui ont émaillé cette invraisemblable soirée, notamment le fait que des joueurs sénégalais, encouragés par leur sélectionneur Pape Thiaw, avaient rejoint les vestiaires pour contester un pénalty accordé aux Marocains. On connaît la suite, le match avait repris, pénalty manqué et victoire sénégalaise après prolongation. La fédération sénégalaise a écopé de 615 000 dollars d'amende, Pape Thiaw de 100 000 dollars et 5 matchs de suspension, 2 pour les joueurs Illimane Ndiaye et Ismail Assar. Ce n'est pas suffisant selon la Fédération royale marocaine de football qui a annoncé hier faire appel de ces sanctions.
Le défenseur sénégalais Mamadou Sarr a signé hier avec Chelsea. Il s'était engagé l'été dernier, vendu par Strasbourg. Il avait été aussitôt prêté pour s'aguerrir. Il faut signaler que les deux clubs ont le même propriétaire. Écoutons la réaction de Kader Mangane, ex-international sénégalais et aujourd'hui coordonnateur sportif à Strasbourg.
Je suis super content pour lui. C'est une nouvelle étape. C'est sûr que le championnat anglais, c'est un championnat très relevé. Il va s'exposer tous les week-ends, mais j'ai aucun doute que Mamadou va faire une superbe deuxième saison avec Chelsea. Notre entraîneur qui était là, monsieur Liam Rosenior, qui est reparti à Chelsea, a souhaité récupérer Mamadou. Mamadou, c'est un excellent joueur, donc je ne doute aucunement qu'il va s'acclimater rapidement avec son nouveau club.
Et toujours à propos des transferts, le club turc Fenerbahçe a confirmé hier la signature du milieu de terrain français N'Golo Kanté en provenance du club saoudien d'Al-Ittihad. Et toujours à propos des transferts, la fenêtre des transferts du mercato d'hiver vient de se clôturer, ce qui a vu plusieurs joueurs de Ligue 1 partir à l'étranger, mais pas seulement outre-Manche. On signale l'attrait des clubs saoudiens et turcs, l'aspect financier jouant un rôle de plus en plus déterminant. Explication, Thibaut de Saint-Léger, RFI.
Contre la coquette somme de 100 millions d'euros, le Stade Rennais a perdu deux joyaux. Deux espoirs français, Jérémy Jacquet, défenseur cédé à Liverpool pour la saison prochaine, et l'attaquant Kader Meïté, 29 matchs de Ligue 1 dans les jambes, transféré avec effet immédiat à Al Hilal en Arabie Saoudite. L'entraîneur Habib Bey est résigné.
J'ai parlé avec Kader, il était hors de question pour lui de rester au club. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le garder? Vous avez quoi du joueur derrière si vous le privez d'aller chercher ce qu'il pense être le contrat de sa vie ou l'opportunité de sa vie?
Pour les clubs aussi, l'opportunité est trop belle avec la crise des droits télé. L'autre source principale de revenus, la vente des meilleurs actifs est inévitable. Même quand le propriétaire a les reins solides, c'est le cas de Rennes détenu par la famille Pinault. L'économiste du sport, Christophe Le Petit.
Quand bien même ils ont de l'argent, ils sont aussi des hommes d'affaires qui tentent d'équilibrer leur budget. Comme le seront d'autres, y compris des clubs qui ont été récemment rachetés, je pense en particulier au Paris Football Club, qui est plutôt dans une stratégie d'investissement aujourd'hui, mais qui rentrera à terme dans les mêmes considérations économiques. Et donc, on subit l'assaut de clubs étrangers.
Ces clubs étrangers généreux en transfert et en salaire sont aujourd'hui plus nombreux. Le très convoité Sidiki Chérif, attaquant formé et révélé à Angers, vient de rejoindre Fenerbahçe, deuxième du championnat turc, toujours en course en Ligue Europa, preuve que l'intérêt sportif peut parfois s'accorder avec l'aspect financier.
Et toujours au football, en championnat français, hier, l'OM a battu Rennes 3-0. Autre match de Ligue 1. Demain, Metz reçoit Lille. Samedi, Lens joue contre Rennes. Brest joue contre Lorient. Nantes reçoit l'Olympique Lyonnais. Et dimanche, Nice jouera contre Monaco. Angers contre Toulouse. Auxerre, Paris FC. Le Havre jouera contre Strasbourg et le PSG recevra Marseille. Et aux Jeux Olympiques d'hiver, la championne olympique en titre, Jakara Anthony et son compatriote Mark Graham, médaillés en ski de bosse, mèneront la délégation australienne en tant que porte-drapeau lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver. La composition de l'équipe a été révélée dans la nuit de vendredi à samedi, à deux jours de la cérémonie d'ouverture ouverture officielle au stade olympique San Siro de Milan. Jacara Anthony s'est dit encore sans voix face à cette nomination à la tête de la délégation australienne.
As an Olympic athlete in Australia, I think it's one of the biggest honors you can have bestowed upon you. I mean, even just making the team is such an honor, and to get the opportunity to lead the team out into the opening ceremony with my teammate Matt Graham as well. Yeah, I couldn't have asked for anything more.
Il faut signaler que la 25e édition des Jeux olympiques d'hiver a la particularité d'être très éclatée entre Milan et 6 autres sites de montagne. Cela multiplie les contraintes et isole les athlètes dans leurs zones respectives. Écoutons la réflexion de Perrine Lafont, championne olympique de ski de bosse dans l'édition 2018.
Forcément, ça perd un petit peu de cet esprit olympique qu'on aime avoir. Quand j'ai fait Sochi ou même Pyeongchang, on a eu la chance de pouvoir aller voir d'autres épreuves et tout. On était dans les villages aussi avec d'autres athlètes. Là, on va être que le snowboard et le freestyle. Donc, c'est vrai que ça va réduire un petit peu cette émulation qu'on aime tant olympique à courir dans tous les couloirs pour avoir les pins des nations les plus stylées, de la Jamaïque ou des pays un petit peu exotiques comme ça. Mais je pense que c'est bien aussi parce que, on va être sur des jeux un peu plus vertueux en termes d'écologie, avec des sites où il y a eu peu d'aménagements qui ont été faits comme sur d'autres Olympiades. Et je pense que, voilà, il faut savoir vivre avec son temps aussi, prendre en compte ce réchauffement climatique. C'est aussi ça l'esprit olympique, c'est respecter des valeurs qui sont importantes de nos jours. Et du coup, non, on est en accord avec ça.
La cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver, c'est donc demain soir, mais certaines épreuves ont déjà commencé. 10 nations sont en lice dans ce cercle restreint, dont l'équipe de France. Des tricolores qualifiés de justesse, mais qui n'entendent pas faire que de la figuration. Christophe Diramtian.
Fin mai dernier, l'incertitude laisse la place au bonheur. Deuxième de leur tournoi de qualification olympique 3 mois auparavant, les Bleus apprennent en plein stage qu'elles verront bien Milan, la Russie restant exclue des JO, ce graal que la capitaine tricolore Laure Baudrit dédie à tout un hockey féminin qui en rêvait.
Moi j'avais un très très bon groupe d'amis qui a pris sa retraite en 2022. Quand on a finalement su ok, on est qualifié, la première chose que j'ai pensé c'est à toutes celles d'avant qui ont bâti cette équipe. On a repris le flambeau et on amène l'équipe aux JO, mais c'est le travail de toutes les générations précédentes.
Une belle récompense aussi pour des joueuses d'ordinaire éloignées des radars médiatiques et qui peinent à vivre de leur sport, contraintes de concilier carrière en club et job d'appoint ou financement participatif. Mais face aux stars professionnelles, pas question de faire de la figuration, la défenseur Sophie Leclerc.
Nous, notre objectif, ça va être surtout de montrer qu'on a complètement mérité notre place au JO. On va pas se satisfaire de juste dire on a déjà fait tout ce parcours-là. Le but, c'est quand même de viser haut, d'avoir un objectif certes qui va être difficile à atteindre, qui va demander qu'on fasse vraiment à chaque fois des bons matchs pour y arriver, mais en fait, ouais, on a tous cette compétition en nous et on veut viser haut.
C'est-à-dire au moins les quarts de finale, avec la perspective de croiser en forme de défi ultime les Américaines ou les Canadiennes qui se sont partagées tous les titres olympiques depuis l'apparition de la discipline chez les dames en 1998.
Et mot de rugby, lancement ce soir du tournoi des 6 nations. Les tricolores tenantes du titre reçoivent ce soir l'équipe d'Irlande. 2 autres rencontres. Dimanche, l'Écosse jouera contre l'Italie et le Pays de Galles jouera contre l'Angleterre. C'est tout pour l'actualité sportive de ce jeudi. Suite du programme dans quelques instants.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.